Il était une fois une jeune fille. Elle avait différentes sœurs. Et dans ce monde féminin, c'est cette femme-là qu'un homme avait choisie pour épouse. Il l'a trouvée magnifique, il l'a trouvée belle, il était triste. Il était triste parce qu'il avait déjà, dans sa vie, rencontré plusieurs veuvages. Pour cette jeune fille, cet homme était surprenant, étrange, et elle était tellement flattée. Flattée qu'il s'intéresse à elle, flattée qu'il la choisisse. Il l'a trouvée belle, il l'a trouvée... Son étrangeté était vraiment singulière. Il avait une barbe bleue. C'est étrange d'avoir une barbe bleue. Mais ça rendait un peu magique, un peu unique. Alors, dès le mariage célébré, il l'emmène dans son château. Elle devient la maîtresse de ce château-là, de cette grande demeure magnifique. Elle peut aller partout. Il lui remet les clés de chacune des pièces de cette immense demeure, y compris la clé d'une pièce qui lui est interdite de voir. Sous aucun prétexte, elle ne devra entrer dans cette pièce-là. La jeune fille vit sa vie de femme avec cet homme-là tranquillement et très heureuse, épanouie dans cette magnifique demeure. Puis un jour, elle est interpellée en passant à côté de cette porte fermée qui l'intrigue. Alors, sachant que son mari était loin, elle décide ce jour-là de prendre la clé, tout doucement d'ouvrir. Elle tourne la clé et... juste un coup d'œil. Un coup d'œil. Et lorsqu'elle rentre dans cette pièce, elle découvre là des femmes mortes, sur ce lit, allongées, immobiles. Terrorisée, effrayée, très vite, elle referme la porte. Quand elle referme la porte, la clé est déformée. Elle porte la trace. Elle est changée de couleur. Elle est devenue de plus en plus sombre. Puis elle passe au rouge vif. Cette jeune femme comprend très très vite que le mari sera vite au courant qu'elle a vu qu'elle est rentrée dans la pièce et qu'elle a compris que dans cette pièce-là, il y avait des femmes mortes, allongées sur des lits. Alors elle monte en haut du toit et elle se met à crier, à hurler. Mais le temps que les autres l'entendent dans le lointain, qu'ils montent sur leurs chevaux, pour venir la sauver, elles se rendent compte qu'il sera peut-être trop tard, qu'ils n'arriveront pas à la défendre. Alors, ni une ni deux, elle s'enfuit. Elle prend la porte, la claque derrière elle et rapidement court dans la forêt. Elle prend la direction de la forêt et dans sa course folle, elle se perd en forêt. Au fur et à mesure qu'elle pénètre de plus en plus dans cette forêt sombre, elle se perd de plus en plus. À un moment donné, elle arrive là, épuisée, dans un endroit sombre et obscur. Dans le lointain, elle voit passer un chevalier. Il est noir, il court. Alors, ça lui donne la direction, elle se met à suivre cette direction-là. Puis, un moment après, un deuxième passe. Il est blanc, il court. Elle continue à suivre cette direction-là, en espérant finir par arriver vers un chemin, vers un sentier qui lui montrera où aller et qui l'amènera en sécurité dans un village. Puis un troisième cavalier passe. Il est rouge. Il passe tout droit. il court. Alors, elle reprend de plus belle. Elle se met à courir derrière le dernier. Elle a juste le temps de le voir entrer dans une petite maison. Une drôle de maison. Une maison sur pattes. Une petite cabane. C'est étrange. On dirait qu'elle est très petite, beaucoup trop petite pour pouvoir accueillir un cavalier avec son cheval, et pourtant ils ont disparu à l'intérieur de celle-ci. Perdue, effrayée, épuisée, elle frappe à la porte. Une femme, âgée, plutôt effrayante, l'accueille. Elle lui dit qu'elle s'est perdue dans cet endroit-là. Et elle lui demande l'hospitalité. Cette femme la fait rentrer et lui dit « Oh, aucun souci, tu peux rentrer. Je te connais. Je t'ai déjà croisée. » Comment peut-elle avoir croisé cette femme-là alors qu'elle est tellement particulière qu'elle s'en serait rappelée? Mais bon, épuisée comme elle est, elle se nourrit de ce que lui donne cette femme et elle dort dans le lit que lui donne cette femme. Puis le lendemain, la femme lui annonce qu'en dédommagement, elle devra tout nettoyer parfaitement dans la maison. Pas de souci, se dit la jeune fille. Elle est habituée à travailler et à tenir une maison. Alors elle commence le matin à balayer, à nettoyer, à récurer. Mais chose étrange, elle a toujours l'impression qu'elle a beau être passée, toute la poussière s'est redéposée, toute la saleté s'est remise. Alors elle s'effondre, elle pleure. Dans ses pensées, en pleurant, elle pense à sa mère. Sa mère qui est toujours présente à travers le foulard qu'elle a sur elle, qu'elle a toujours gardé précieusement. Alors, elle prend ce foulard et sans s'en rendre compte, en pleurant, elle frotte légèrement sur le côté en bougeant. Et là, la poussière ne se remet pas. Alors, d'un seul coup, elle se met à frotter, à nettoyer, à récurer. Et tout reste propre. Il s'est passé la journée entière. Elle est épuisée quand la sorcière rentre. De nouveau, elle mange. De nouveau, elle dort, car il est déjà trop tard pour pouvoir aller ailleurs. Et de nouveau, cette vieille femme lui dit que pour payer sa nourriture et que pour payer son logement, elle devra, le lendemain, trier la bonne herbe de la mauvaise herbe qu'il y a dehors dans le jardin. Elle avait bien vu, en entrant, qu'il y avait une petite cour, un petit jardin. Alors, aucun souci, elle est d'accord. La femme s'en va et elle commence à se mettre à quatre pattes dans le jardin. Et chaque fois qu'elle commence à enlever les brins d'herbe qui seraient les vieux, les moches, les abîmés, les secs, il en repousse derrière, immédiatement, d'aussi vieux, d'aussi moches, d'aussi secs. Comment trier le bon du mauvais? Toutes ces mauvaises herbes repoussent de plus belle. Épuisée, en larmes, elle se dit « Mais comment vais-je pouvoir faire tout ça en si peu de temps ?» Alors que l'idée de reprendre le foulard, comme elle l'avait fait la première fois, lui vient à l'esprit. Et en attrapant les mauvaises herbes avec le foulard comme un gant, elle ne repousse pas. Alors elle fait ainsi tout le petit bout de jardin. Et le soir revient. En étant dehors, elle revoit passer des cavaliers. Elle est assez intriguée. Mais bon, elle est épuisée. De nouveau, elle doit encore une fois accepter. Accepter tout simplement de manger et de dormir dans cette chambre, dans cette maison sur pattes. Quelle étrange maison qui se tourne au fur et à mesure de la journée, qui change de direction, qui se déplace dans le jardin. Mais au fond, quand elle dort, les changements de position de cette maison, le grincement, le bercement de cette maison qui marche dans ce petit jardin, la berce, et elle dort très très bien. Passer une nuit et un repas de plus, elle se dit « Oulala, que vais-je devoir faire le lendemain ?» Alors, pour éviter que la femme ne lui donne du travail, elle se met immédiatement le matin au réveil à lui poser quelques questions. Et elle lui demande « Le cavalier rouge que j'ai vu passer, que représente-t-il? Est-il ici? Entre-t-il vraiment dans la maison ?» Puis de même pour le cavalier noir et le cavalier blanc. La vieille femme lui répond sans lui répondre et finit par lui dire « Il y a des réponses qu'il ne veut même pas connaître, qu'il ne veut au mieux pas savoir. » Puis elle se rend compte qu'elle est déjà en retard. Et une, deux, hop, elle s'enfuit vite. Elle a oublié de lui donner. Alors, la jeune femme met un petit mot de remerciement. Nettoie la maison de nouveau pour qu'elle soit bien propre, prépare un repas pour que la vieille femme puisse le trouver en rentrant. Et de nouveau, elle s'enfuit. Elle s'en va en courant dans la forêt. Et là, en passant sur un lac sans s'en rendre compte à force de courir, épuisée, elle n'a pas vu le temps passer. Ce qu'elle croyait une journée était en réalité des mois. Et sans s'en rendre compte, épuisée par le labeur qu'elle a fait à l'intérieur de cette maison, de cette cabane, elle a fondu, elle n'a plus que la peau et les os. Épuisée et sans force, à un moment donné, en plein hiver, car c'est déjà l'hiver, au milieu de la neige, dans le froid, elle arrive sur une étendue de glace. Elle pourrait faire tout le tour. Elle voit bien que là-bas, il y a une maison, et plusieurs maisons, qu'il y a probablement derrière un village. Elle le voit par les cheminées qui doivent laisser la trace de la fumée qui dépasse là-haut. Elle n'a plus la force de faire tout le tour. Alors, elle passe au milieu du lac. Et en passant sur ce lac gelé, à un moment donné, la glace craque, elle s'écroule dans l'eau. Et là, tout doucement, par le froid de l'eau, elle commence à s'engourdir, à s'engourdir, à s'engourdir. Quand tout à coup, elle se sent comme tirée, accrochée, emmêlée. Elle se met, avec le reste, le très léger reste d'énergie qu'elle a, à bouger, à gigoter, mais c'est comme si elle était ensaucissonnée. Il y a un fil, elle essaye de le tirer, de le dégager. Elle s'est prise dans un fil de pêche qui s'est complètement accroché tout autour d'elle. Elle est emmêlée dans ce fil-là. À l'autre bout, le pêcheur tire fort. Il remonte en tirant cette femme-là. Elle est tellement légère dans sa maigreur, tout en saucissonnée dans ce fil. Elle ne ressemble plus à rien. Terrorisée, car elle ne ressemble tellement plus à rien qu'on dirait un épouvantail. Dans sa terreur, il se met à courir pour s'en aller, mais en courant pour s'en aller, il s'est accroché à l'autre bout du fil, ce qui fait qu'elle, elle est tirée, traînée, elle rebondit, il continue à courir, et elle est encore plus tirée, traînée, et elle le suit, il essaye de s'enfuir, et plus il s'enfuit, plus elle est là-bas, derrière, toujours tirée. Il finit par se précipiter chez lui, dans sa maison, et elle se retrouve là, tirée d'un seul coup. De peur, il essaye de la repousser, mais elle est attachée, lui aussi. Alors, pendant un moment, il reste immobile là-bas dans la maison, d'un côté, elle de l'autre. Elle est toujours coincée dans son fil. Il essaye de la repousser, puis tout doucement, il se détache. Il prend le temps de couper le fil de son côté pour pouvoir être enfin détaché, libéré de ce paquet là-bas en face, de ce truc qui la gêne. Il la regarde de loin, mais elle lui fait tellement peur qu'il n'ose pas s'en approcher. Il s'est bien dit que tout doucement, elle finirait par partir, il suffit de faire semblant de l'ignorer. Alors, il fait à manger comme si de rien n'était, il mène sa vie comme si de rien n'était, et chaque fois qu'il se retourne et qu'il jette un œil, elle est toujours là. Il finit, par pitié, par lui proposer un peu d'eau de loin. Elle essaye d'étirer le cou, et tel un chien, elle se met à laper l'eau. Puis, il lui jette quelques miettes. Elle les prend. Puis tout doucement, le temps aidant, le temps passant, il se rapproche, jusqu'au jour où il trouve le courage de commencer à aller enlever un fil, puis un deuxième. Et comme cette femme ne bouge pas et semble docile et semble tranquille, il enlève les autres. Elle est tellement épuisée, tellement fatiguée, tellement blessée, qu'elle reste toujours immobile. Alors tout doucement, il se met à la soigner. Il lui propose des pansements. Elle se les met. Il cuisine. Elle se soigne. Elle se répare. Il la nourrit. Le temps passe. Ils finissent par se connaître. Ils finissent l'un et l'autre par se découvrir. Jusqu'au jour où la chose la plus étrange, cet homme qui l'avait fui, cette femme qui voulait partir, se marièrent et restèrent toute leur vie ensemble et vécurent très heureux l'un et l'autre.